Einstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Anne Munich, qui publie « Monde terrible ou naître ?» La voix singulière face à l'histoire, aux éditions Honoré Champion. Il faut passer un espace infernal, risquer plus que l'on a. De temps en temps, Anne Munich, vous êtes face à des étudiants dans un amphithéâtre. Vous donnez des cours à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et à d'autres moments, vous êtes seul face à la page blanche. Vous écrivez des livres. Des études critiques sur la pensée poétique, par exemple, comme Jacob ou Lettre du possible, que vous avez publié il y a 2 ou 3 ans, aux éditions Caractère, ou des poèmes. Ça vous arrive d'écrire des poèmes?
Bien sûr, oui.
C'est pas le plus important, les poèmes?
Les poèmes, bien sûr, c'est le plus important. Oui, c'est sûr. Et c'est ce qui ouvre l'esprit justement sur les œuvres critiques, qui permet de lire de l'intérieur en quelque sorte. Vous voyez, comme une intériorité qui se communique. Avec des poètes que l'on aime, on a l'impression qu'on vous parle à l'oreille. Et c'est ça qui rend les choses agréables et qui donne envie d'en parler, d'aller plus profondément. Et surtout de relever la poésie de ce dont elle pâtit, je crois, à l'heure actuelle, c'est-à-dire d'une sorte de divertissement ou d'une chose qui fait joli. Ce que j'aimerais montrer, ce que j'essaie toujours de montrer à mes étudiants, c'est que la poésie est une chose sérieuse, mais que les poètes, autant que possible, ne se prennent pas au sérieux. On parlerait de sérieux existentiel, comme le fait Kierkegaard. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, « Monde terrible ou naître, la voix singulière face à l'histoire », parce que j'ai traversé, lu attentivement, un certain nombre de poètes qui ont écrit dans des situations qu'on peut qualifier au moins de très désagréables. Mmh.
Parmi ces poètes, bon, oui. On aura l'occasion d'en rencontrer quelques-uns, mais parmi ces poètes, il y a Claude Vigée. Que les auteurs du jour au lendemain connaissent bien, parce qu'il est venu à plusieurs reprises parler dans cette émission. Et il se trouve que vous vous occupez d'une revue qui est publiée par l'Association des Amis de Claude Vigée, une revue qui s'intitule « Peut-être ».
Oui, exactement. Et je vous remercie d'en parler. Claude Vigée m'a demandé de m'occuper de cette association Donc j'ai trouvé que pour fédérer les gens qui s'intéressent à l'œuvre de Claude Vigée, pour donner une activité à l'association, pour la montrer en quelque sorte, une revue était une bonne idée. Et d'ailleurs, dans les dernières nouvelles d'Alsace, chaque année Antoine Vilquer nous fait un article très qui comprend très bien ce que nous voulons faire. Et il a parlé la dernière fois en janvier d'une communauté d'amis. Et ça, c'est tout à fait ce que nous voulions. C'est-à-dire que la revue part de l'œuvre de Claude Vigée, de ce qu'il écrit, bien entendu, et ensuite d'articles, d'essais sur son œuvre. Et ensuite, on ouvre de plus en plus vers la poésie, la musique, la peinture et des poètes qui, autour de lui, s'expriment en tant que poète.
Mmh. C'est une revue sans éditeur, donc
publiée
par l'association,
oui.
Et diffusée dans toutes les bonnes librairies.
Voilà, dans toutes les bonnes librairies. Nous avons maintenant quelqu'un qui s'occupe de la diffusion et qui fait plus que moi je ne peux faire en me déplaçant avec mon petit sac en plastique.
Pourquoi ce titre, peut-être ?
Alors, peut-être, c'est d'après la Kabbale, tout simplement le nom de Dieu. D'après vous savez, la valeur numérique des lettres, les kabbalistes sont arrivés au mot oulai, qui veut dire peut-être. Et donc, c'est le devenir. Et je pense que c'est, pour la poésie, c'est essentiel de s'inscrire justement dans le devenir et dans la continuité. Ça recoupe aussi un certain nombre de choses que j'ai développées dans mon livre.
Mmh.
La continuité par rapport à la rupture.
Un numéro vient tout juste de paraître.
Exactement.
À son sommaire, qu'est-ce qu'on rencontre ?
À son sommaire, on rencontre des reprises de textes de Claude, des nouveaux poèmes, quand même. On rencontre aussi un essai de Heidi Trenlin sur la poésie alsacienne, et notamment une comparaison avec la poésie de Nathan Katz, qui est un poète aussi alsacien, très, très important et très attachant. On rencontre aussi un essai de Robert Mizrahi sur poésie et philosophie, parce que le sous-titre, c'est « Revue poétique et philosophique ». Et c'est vrai que nous sommes tous plus poètes que philosophes, mais la présence de Robert Mizrahi nous permet d'ajouter « philosophique ». Il y a aussi un texte, un essai très intéressant de Stéphane Moses sur la paix dans la tradition juive, les trois, disons, vecteurs de la paix. C'est vraiment un essai remarquable. Il y a des poèmes, il y a aussi toujours des traductions, parce que, à mon avis, d'ailleurs, pour ma part, je traduis, mais si l'on pense avec Joël Bousquet que le poème est quelque chose qui est traduit du silence, il est normal qu'un poète aille plus loin et traduise une autre langue pour porter à l'oreille des lecteurs de sa propre langue. Donc voilà, ça donne une revue qui grossit à chaque édition. Elle est un peu dans bon point, disons, pour le numéro 3.
En même temps que ce numéro 3 de Peut-être paraît un livre de Claude Vigée.
Exactement, oui. C'est un livre qui est apparu au mois d'octobre aux éditions Horizon, que dirige Daniel Cohen. C'est un livre qui s'intitule « Rêver d'écrire le temps de la forme à l'informe » et qui est composé d'essais majeurs de Claude Vigée. Si bien qu'entre ce qui est paru aux éditions Parole et Silence, et dont Claude ici vous a parlé, et ce qui est paru aux éditions Horizon, l'ensemble quand même des essais importants de Claude Vigée sont disponibles. Et ça, c'est essentiel. Il y a notamment des considérations sur Martin Buber, autant que je m'en souvienne, parce que là, octobre, ça commence à faire un peu loin. Et notamment, oui, c'est très important aussi, l'ensemble de ces essais sur Camus qui sont réunis. Hein. Entre Albert Camus et Claude Vigée, il y a eu d'abord une grande amitié, puisque c'est Camus qui a publié Claude Vigée, le premier Judan, en 1957 aux éditions Gallimard. Et il y a aussi, à mon avis, pas mal de choses en commun.
Mmh. Voilà. Alors, en même temps que cette actualité Claude Vigée, avec ce livre et la revue peut-être numéro 3, il y a quand même cet ouvrage que nous ne devons pas oublier, Anne Mounik, puisque c'est pour en parler que vous êtes venue ce soir, « Monde terrible ou naître », sous-titré « La voix singulière ». Face à l'histoire avec un H majuscule, évidemment. C'est une étude très dense, hein, le livre fait presque 500 pages, où vous proposez une vision différente de la modernité littéraire.
Oui. Histoire avec un grand H, je crois que quand on met un grand H à histoire, c'est qu'elle est désagréable. Et c'est vrai que beaucoup de chapitres sont consacrés aux poètes de la Première Guerre mondiale, et je vais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec un poète majeur comme Benjamin Fondane. Mais je n'ai pas voulu, disons, me contenter de ces moments-là, parce que je crois que certains poètes ont conçu un certain nombre de choses avant et en après, bien évidemment. Je parle donc de Shakespeare, qui, sur les questions de pouvoir, sur les questions de tragique, a dit des choses vraiment très intéressantes. Là, je m'intéresse au roi Lear, King Lear, où on voit qu'il fait la part, justement, du tragique, de la fatalité, donc de l'impossible pour l'être humain, du désespoir, en quelque sorte. Et la part de ce qui est possible, de ce qui peut être une sorte de conversion, pour employer un terme qui est cher à Robert Mizrahi, de conversion de cette passivité originelle, qui d'ailleurs, si elle est acceptée et si elle est convertie, fait l'être du poète et lui donne sa sève au plus profond. Il faut l'accepter, ça, cette passivité originelle. Certains philosophes, comme Michel Henry, par exemple, dit des choses très, très intéressantes sur cette question. Et Michel Henry s'est inspiré pour ces éléments-là de Maine de Biran, qui a une très belle expression qui est le tact immédiat de l'âme sensitive. Mmh. C'est-à-dire cette espèce de perception à l'aveugle de ce qui est à la source dans chaque être humain, qui fait le singulier, mais le singulier non pas en tant que égocentrisme, en tant que clôture, mais le singulier en tant que allant vers du jeu vers un tu, allant vers autrui, du jeu vers un nous, donc vers une forme de collectivité.
Le champ, donc, on le voit, est assez large. Hein. Bon, c'est principalement la Première et la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Mais, comme vous venez de le dire, ça commence à Shakespeare.
Voilà.
Et ça passe par Hopkins au XIXe siècle.
Oui, c'est ça, j'allais en parler. Ça, Hopkins, à mon avis, est un poète essentiel. Étant donné qu'on peut dire que Hopkins, c'est le poète du singulier. Il a retrouvé chez un philosophe médiéval qui s'appelle Dan Scott des éléments qu'il avait déjà trouvé lui-même, et notamment l'accent sur la singularité. Le mot accent est employé à dessein, puisqu'il dit d'un de ses poèmes qui s'appelle « La perte de l'Eurydice », il dit « l'accent en est la vie ». C'est-à-dire que le rythme, finalement, est l'expression du singulier, de l'individu lui-même. Et ces accents sont aussi symboliques de chaque créature. Hein. Il était jésuite, donc j'emploie le vocabulaire qu'il peut employer. Où chacun participe de la vie dans une sorte de communauté, je reviens à ce terme, en ayant chacun sa place, sa participation à l'ensemble. Chacun se trouvant justifié, en quelque sorte, dans cet ensemble. Donc, Hopkins pensait, et ça c'est une chose que dit Kierkegaard aussi, je relisais en venant dans le train pour penser à cette émission, Kierkegaard dit que finalement, ce qui est important, c'est de rendre les gens attentifs. Et il dit, pourquoi ne veut-on pas rendre les gens attentifs? C'est bien parce que c'est dangereux de rendre les gens attentifs. Et Hopkins dit un peu la même chose quand il parle, vous savez, Hopkins a quatre, disons, non pas des concepts, mais quatre idées fondamentales qui font de sa poésie. C'est l'accent intérieur. Je traduis tout, hein. L'accent intérieur, le paysage intérieur, la tonalité et un terme qui pourrait se traduire par gage et qui marque l'accession de l'individualité à l'extériorité. Donc, cela veut dire que, et Hopkins dit dans un de ses textes que quand on est attentif, on perçoit justement dans la chose ou dans l'être qui vous fait face cette puissance intérieure. Et là, effectivement, la singularité prend une dimension qui va au-delà de l'individu lui-même. Si l'individu était quelque chose de renfermé, si vous voulez, dans un isolement, c'est là que on va vers le partage, vers du je au nous, du je au tu. Mmh. Hein, c'est essentiel. Et ça, je crois que Hopkins a su montrer ça. D'autre part, il avait aussi une pensée sociale, puisque en tant que jésuite, il a été prêtre, il est allé à Glasgow, il est allé à Liverpool, et il a vu la misère, l'extrême misère au 19e siècle. Et il reprochait finalement à ceux qui acceptent cette misère d'empêcher les gens de vivre pleinement, de participer vraiment, vous voyez, de la vie. C'est autre chose que le face-à-face politique. Ça va au-delà. C'est pour ça que je crois que l'élément éthique sur lequel j'insiste dans mon livre et dans le livre qui va venir, qui va s'appeler L'esprit du récit ou La chair du devenir, éthique et création littéraire, là, carrément. Je crois que c'est important de contourner, d'éluder ce face-à-face pour aller vraiment vers une conception de l'être humain en tant qu'il est sujet, en tant qu'il s'exprime et en tant qu'il est irremplaçable dans sa singularité. C'est ce qu'a perçu Franz Rosenzweig quand il était dans les tranchées des Balkans. Il avait fait une thèse, je crois, sur Hegel, donc sur l'idéalisme allemand. Et là, tout d'un coup, à voir ce qu'il a vu, c'est-à-dire la pure et simple horreur, il s'est dit, seul le singulier peut mourir. Et là, dans cette réflexion, il rencontre un peu Proust dans, je sais plus dans quel ouvrage de, c'est dans Le Côté de Guermande 2, où Proust parle de l'effroi de la singularité particulière à la mort. Et là, il y a un écho, évidemment, de ce que exprimait Rosenzweig. Mm. Et par rapport à ça, le poète irlandais Yeats, lui, dans une anthologie poétique qu'il a rassemblée dans les années 30, a refusé les poètes de guerre. Alors, il faut dire que dans l'histoire de la littérature anglaise, les poètes de la Première Guerre mondiale occupent un chapitre à part, ce qui n'est pas le cas en France. En France, il y a eu des poètes pendant la guerre. Il y a eu Apollinaire, il y a eu Sandrart, qui sont des poètes très, très importants et qui ont vraiment écrit, surtout Sandrart, sur cette période. Mais nous n'en avons pas fait un chapitre. Tandis qu'en Angleterre, oui, il y a un chapitre, War Poets, les poètes de guerre. Et j'ai perdu le fil. Oui, Yeats a refusé donc ces poètes en disant que la souffrance passive n'est pas un thème pour la poésie. Et que dans toute bonne tragédie, le héros tragique est heureux de mourir. Et donc là, on voit se profiler une ligne de partage entre deux types de visions artistiques. Même si Yeats a écrit des poèmes sur l'Irlande, regrettant la violence, hein. Mais là, je crois que c'est ce que j'ai découvert en étudiant ces poètes, en lisant bien attentivement. Il y a une ligne de partage entre l'acceptation du tragique, l'acceptation dite héroïque du sacrifice, et qui va avec l'idée de catharsis, hein, qui est développée dans la poétique d'Aristote. Comme la catharsis, c'est finalement se détacher de la souffrance de l'autre pour s'en purger, s'en purifier, s'en laver en quelque sorte. Et pour moi, je l'oppose vraiment à l'empathie, c'est-à-dire l'empathie qui va avec la singularité, qui va avec ce refus justement du sacrifice, puisque c'est là tout simplement la mort du singulier, comme le veut d'ailleurs l'idéalisme. Et je crois qu'on peut aborder justement les poètes de guerre par ce côté-là de l'empathie, c'est-à-dire une intériorité qui parle à une autre. Hein, ça, c'est aussi un principe que développe Kierkegaard. Par une écoute. Ce qui fait que, finalement, la forme poétique est souvent mise en avant dans une vision uniquement esthétique du poème, comme jeu formel ou comme jeu tout court, devient, comme le dit Imre Kertész, une sorte de forme spirituelle.
C'est ce que vous dites d'ailleurs, hein, lorsque au début de l'émission, je disais que vous proposiez avec ce livre une vision différente de la modernité littéraire. Cette vision, en fait, c'est la poésie comme manifestation de la puissance d'être, exactement, que vous appelez la voix.
La voix, exactement. Ça, justement, vous avez cité tout à l'heure le livre que j'ai écrit sur Jacob ou l'être du possible. Vous savez, dans les commentaires sur le passage de la Genèse, c'est Genèse 27, la bénédiction, quand Isaac dit « Ceci est la voix de Jacob, mais la main d'Ésaü ». Les commentateurs ont vu Jacob comme la voix. Et Jacob, bien sûr, est celui qui prend en charge la spiritualité, en quelque sorte, le chant, le service de Dieu. Et je me suis aperçue que cette voix, effectivement, c'était cette puissance intérieure, cette puissance de vie qui apparaît dans l'étreinte de Jacob avec l'ange, qui est devenue très importante dans la littérature, surtout à partir des années 1860, quand Delacroix a peint c'est une peinture à l'encaustique. C'est pour ça que ces couleurs sont très fraîches. À Saint-Sulpice, il a peint la lutte de Jacob avec l'ange. Et ensuite, dans la littérature, on voit apparaître de façon, disons, modulée par beaucoup de poètes, et centrale chez Claude Vigée, dont nous parlions tout à l'heure, cette vision de la lutte avec l'ange, qui peut être une symbolisation, finalement, de la lutte du singulier face à la négativité, mais comme étreinte et pas comme détachement ou comme dualité tragique.
C'est ce que quelqu'un comme Benjamin Fondane, que vous citiez, ouais, dont il est question dans le livre, oui, appelle tout simplement le droit de vivre.
Oui, exactement. Hein, oui.
Vous avez fait un chapitre qui s'intitule « Benjamin Fondane et l'expérience du gouffre » par référence, oui, au titre de
Baudelaire
et l'expérience du gouffre.
Oui. Oui, Benjamin Fondane est un poète très important. Une société d'études, d'ailleurs, Benjamin Fondane, sous la direction de Monique Jutrin, s'occupe très régulièrement de montrer l'importance de ce poète. Et d'ailleurs, nous organisons à Paris 3, au mois de juin, les 15 et 16 juin, un colloque qui mettra en comparaison l'œuvre de Fondane et l'œuvre de Claude Vigée. Puisque Claude Vigée a connu Benjamin Fondane et c'est beaucoup identifié à lui, notamment à l'Ulysse juif. Alors Fondane, lui, avait, à la suite de Léon Chestov, qui était, lui, philosophe, Fondane, en tant que poète, a entendu ce que disait Chestov et l'a, disons, l'a interprété en tant que poète. Il se livre à une critique de l'idéalisme, une critique alors là très très franche, très très sérieuse de l'idéalisme, notamment de Hegel. Et dans son analyse de Baudelaire et l'expérience du gouffre, il parle notamment de Kafka, de la fin du procès, et il montre que finalement les exécuteurs de K voulait obtenir de lui non pas sa mort, mais son assentiment à la mort. Et là, ça recoupe évidemment la situation des poètes de guerre et cette assignation à héroïsme qui était exigée d'eux, mourir pour la patrie, qui donne, il y a un passage des Croix de Bois de Roland Dorgelès que j'ai particulièrement analysé, où il est question d'une exécution sur le champ de bataille d'un vraiment d'un pauvre type qui la veille au soir n'avait pas très très bien compris les ordres, avait dit qu'il était fatigué et qui se retrouve devant le peloton d'exécution le lendemain matin. Et le Roland d'Angelès décrit ça avec un jeu de pronoms qui est très symptomatique. C'est-à-dire la seule personne à dire je, c'est celui qui implore pour sa vie, qui n'admet pas d'être exécuté. Et pour ce qui est de la collectivité des soldats qui sont tenus d'assister à l'exécution, de voir l'autre mourir, ce que d'Angelès nomme ça. Et évidemment, l'usage du démonstratif est très expressif. On emploie un peu le nous, mais surtout le on. Le on comme impersonnel, comme donc dégagement éthique, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est ce désarroi éthique qui est manifeste dans les récits de guerre. Dans la plupart, hein, Barbus, Remarque, Sandrard, Graves aussi, Robert Graves, qui est un poète anglais, qui a survécu à la guerre.
Que vous avez traduit?
Que j'ai traduit aussi, oui, avec beaucoup de plaisir. Mais j'ai beaucoup traduit dans ce livre, notamment des poètes comme Ivor Gurney, qui a survécu à la guerre aussi, qui a été musicien, qui sont des poètes qui sont pas tellement connus des Français. Il y a aussi Charles Sorley, qui est extraordinaire, qui est né en 1895, qui est mort en 1915, donc vraiment au début de la guerre, et qui avait une vision vraiment réaliste de ce qui se passait, de la façon dont les autorités militaires jouaient en quelque sorte avec les soldats pour les faire acquiescer à cette situation. Là encore, j'ai perdu le fil. J'étais partie sur quelque chose.
La question.
Comment?
Pour les poètes face à la guerre.
Oui.
La
alors,
question.
Oui.
C'est comment ne pas tricher.
Oui, c'est surtout. Ah oui, voilà. J'étais partie de Yeats qui parlait de souffrance passive. En fait, on s'aperçoit à lire les poètes de guerre que les poèmes témoigne justement d'une volonté de convertir, une fois encore, cette souffrance par le chant, non pas pour la rendre acceptable, surtout pas, mais pour se faire entendre. Par exemple, Wilfred Owen est très conscient qu'il parle pour l'après, pour nous, par exemple, pour les gens qui viendront après, puisqu'il n'est pas sûr de survivre. Par contre, il y a aussi, il y a une autre ligne, qui est la ligne idéaliste qui perdure et qui est incarnée, ça j'ai été très surprise quand j'ai découvert ça, par quelqu'un comme Pierre Teilhard de Chardin, qui, dans l'expérience du front, je crois que c'est bien ça le titre de cet essai, montre une exaltation face à cette vie qui lui fait oublier la vie quotidienne, hein, qui est une sorte de contrepoint à ce qu'on pourrait appeler l'ennui, hein, puisqu'on parlait de Baudelaire tout à l'heure. Et aussi, ça c'est moins bien sûr surprenant, Junger. Et c'est dans deux ouvrages, l'ouvrage romanesque et ensuite La guerre comme expérience intérieure qui suit et qui est, disons, plus, une réflexion plus abstraite. Et là, c'est très curieux parce que l'idéalisme se mêle à une sorte de vision animale, de plaisir animal de la destruction, plaisir par exemple de charger les mitrailleuses, qui démentirait presque cette volonté d'élévation. Et alors ensuite, Jan Patočka, qui a écrit aussi dans ses essais hérétiques sur la guerre, dans une perspective idéaliste, puisqu'il s'agit, en acceptant la mort, de surmonter la force. Ce qui, là, est vraiment tout le contraire de la réflexion de Rosenzweig, seul le singulier peut mourir. C'est une sorte de condamnation de l'individu à subir les caprices du collectif.
Mais ce que vous montrez, c'est que le politique et l'éthique ne sont pas séparables, en fait.
Oui,
disons... Quelqu'un comme Imre Kertész, que vous avez
oui,
cité
voilà.
aussi,
Nous devrions dire que le politique et l'éthique ne devraient pas être séparables. Mais... Je fais quelquefois des petites remarques sur la situation actuelle, hein, mais on voit que actuellement, politique et éthique sont quelquefois quasiment ennemis. Ah, poétique. J'avais compris politique. Oui, d'accord. Poétique et éthique ne sont pas séparables. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, alors Imre Kertész. J'ai terminé le dernier chapitre, c'est sur Imre Kertész. Avant un chapitre, disons, plus large, une réflexion. Parce que Imre Kertész a écrit sur son expérience d'Auschwitz, mais il a réfléchi aussi, puisqu'il a choisi de retourner dans son pays, la Hongrie. Il a vécu, donc, ce qu'on a appelé le communisme. Et il réfléchit aussi maintenant sur le capitalisme tel que nous le connaissons actuellement, la mondialisation. Et finalement, à chaque fois, je crois, se trouve étranger. Il a été, quand l'étranger de Camus est paru, il a réussi à se le procurer. C'était dans une foire littéraire ou je ne sais plus quoi, un salon du livre quelconque, et il s'est reconnu comme étranger par rapport justement à ce monde qui ne pouvait envisager la singularité pour lequel la singularité est même impensable.
Juste une toute dernière question, oui. Monique, est-ce que tous ces poètes que vous avez rassemblés dans votre livre forme une communauté de voix singulières?
Pour la plupart, oui. Peut-être sauf ceux qui auraient cette vision tragique et qui ne penseraient pas le singulier. Mais ils finissent par nous apprendre quelque chose aussi. C'est là, peut-être la continuité de la poésie et de la littérature.
Le livre d'Anne Munich, Monde terrible ou naître, la voix singulière face à l'histoire, est publié aux éditions Honoré Champion. Du jour au lendemain, Jean-Michel Bernaud, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir. Thank you.